Au Moyen-Orient, tout bouge très vite. Le conflit s'étend et l'Iran continue de frapper tous azimuts pendant qu'Israël et les États-Unis continuent, eux, leur bombardement sur l'Iran avec un objectif en tête, faire tomber le régime des Mollahs et arrêter définitivement toute ambition nucléaire iranienne.
On voit passer beaucoup d'images à la télévision tous les jours. Alors nous, on choisit de prendre un peu de recul, de dézoomer pour savoir qui dans ce conflit a le plus à gagner, qui a le plus à y perdre aussi, qui joue son va-tout, c'est toujours risqué de déclencher une guerre. Et puis on va voir s'il y a des pays qu'il faut surveiller particulièrement.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti.
Alors, vous l'entendez, vous vous êtes bien rendu compte que ce n'est pas Mathieu Jolivet qui m'accompagne cette semaine. Mathieu Jolivet a mal choisi sa semaine de vacances.
Oui, il a pris quelques jours de repos, c'était prévu de longue date. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que Donald Trump appuierait sur le bouton de la guerre.
Exactement, donc je suis triste d'être sans Mathieu, mais je suis ravie que ce soit Clément Le Saffre qui m'accompagne. Clément qui est l'un des cerveaux de cette émission, donc vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais il est toujours là, il est juste passé de l'autre côté de la caméra et des micros.
Je suis derrière, normalement je supervise l'émission, là voilà, je vais te poser quelques questions, Annalisa, c'est toi qui vas répondre aujourd'hui, tu vas être sous le feu de mes questions, puisque j'imagine que vous aussi qui nous écoutez, qui nous suivez régulièrement sur YouTube ou en podcast, vous vous demandez un petit peu quels sont les enjeux de cette guerre, au-delà de tout ce que vous voyez, je pense qu'on voit tous beaucoup d'images, des frappes en permanence dans tel ou tel pays, il y a beaucoup de choses qu'on peut se demander. J'ai envie de te demander, Annalisa, pour commencer, qui a le plus à gagner finalement dans cette guerre ?
Écoute, c'est un peu contre-intuitif parce que la Russie est un des alliés de Téhéran, mais c'est la Russie qui a le plus à y gagner. Tout d'abord parce qu'en fait, ce conflit risque de fragiliser son principal adversaire et c'est évidemment Volodymyr Zelensky et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'armes qui vont se concentrer au Moyen-Orient, parce que les Européens, qui sont le principal soutien de Kiev en ce moment, vont se concentrer aussi sur la question moyen-orientale. On a vu Emmanuel Macron qui annonçait des forces françaises au Moyen-Orient. Donc effectivement, c'est un peu la crainte de Kiev, et Zelensky en parlait il y a quelques jours. Évidemment, la crainte, c'est que tout se concentre plutôt sur le Moyen-Orient et que donc Kiev se retrouve un tout petit peu plus fragilisé.
L'intensité du conflit, elle est tellement importante qu'en fait, on ne peut pas se permettre de gérer les deux en même temps. Il y a forcément un des deux qui passe au second plan pour l'Europe.
Exactement, et c'est pour ça que Zelensky craint d'être lui, celui qui passe au second plan, au moins temporairement. Il faut voir combien de temps ça va durer, effectivement.
On parle beaucoup de pétrole dans cette guerre au Moyen-Orient, parce que c'est une zone stratégique de production, évidemment. On a parlé du détroit d'Hormuz qui est bloqué, tout ça. La Russie, c'est quand même le troisième producteur mondial de pétrole aujourd'hui. Ça change quoi pour elle ? Est-ce que c'est, tout bénef pour Vladimir Poutine ?
Bien sûr. En fait, ça change tout parce que beaucoup de pays avaient arrêté d'acheter du pétrole russe. Évidemment, d'un côté pour la guerre en Ukraine et de l'autre côté pour les sanctions imposées par Donald Trump. Et donc là, ça risque de tout changer. Je te fais un exemple, l'exemple indien. On en a beaucoup parlé, tu sais, ces dernières semaines parce que les Indiens achetaient beaucoup de pétrole aux Russes et Donald Trump voulait
taper sur les doigts.
Absolument. Donald Trump voulait arrêter à tout prix ses achats parce que ça soutient indirectement le régime de Poutine et donc ça soutient indirectement, ça finance indirectement la guerre en Ukraine. Donc les Indiens avaient vraiment diminué leur importation de pétrole russe et ils l'achetaient donc à qui ? Eh ben, aux États du Golfe, évidemment. Ouais. Sauf que pour l'instant, avec le détroit d'Hormuz bloqué, effectivement, t'en parlais, les Indiens ont quand même besoin de pétrole. Et eux, ils importent énormément de pétrole parce qu'ils n'en ont pas. Donc ils doivent bien importer chez quelqu'un. Et effectivement, ils pourraient se tourner à nouveau vers les Russes. C'est ce qu'on voit en ce moment, c'est ce qui se décide en ce moment à New Delhi. Ils pourraient passer plutôt par une voie diplomatique cette fois-ci, donc de demander une petite dérogation à Donald Trump
Il va quand même aller falloir toquer à la Maison Blanche, dire exactement, mais ça ne nous arrange pas votre histoire de guerre là, donc est-ce qu'on pourrait quand même importer un tout petit peu de pétrole russe quoi. Après, est-ce que Donald Trump dira oui, dira non, on ne sait jamais.
C'est toute la question, effectivement.
Bon, donc la Russie gagnant indirect finalement de cette guerre, à l'inverse, c'est qui le perdant pour l'instant dans ce conflit qui a démarré, on le rappelle, il y a un peu moins d'une semaine ?
Le perdant, c'est un autre allié de l'Iran, plutôt naturellement pour le coup, et c'est la Chine. Le grand perdant, en fait, c'est Xi Jinping, le président chinois, et c'est toujours une histoire de pétrole. On va beaucoup en parler de pétrole, évidemment.
C'est stratégique.
C'est stratégique. Pourquoi ? Parce que Xi Jinping a déjà perdu les importations de pétrole vénézuélien, qui représentaient à peu près 4% des importations du pétrole chinois. Là encore, la Chine n'a pas de pétrole, donc elle est complètement dépendante des importations de l'étranger. Et l'Iran, lui, pesait 15% des importations de pétrole chinois. Donc,
ouais, donc autant 4%, on s'était dit, bon, ça se remplace facilement, autant là, on atteint 20% au total.
Exactement, ça commence à se faire sentir. Et puis, la Chine venait de signer, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, on sait que sur le pétrole, ça bouge lentement, donc 5 ans sur un horizon pétrolier, c'est pas si long. Ils avaient signé avec les Iraniens un partenariat économique de 400 milliards de dollars d'investissement sur 25 ans.
Colossal.
Donc, t'imagines la perte que ça fait pour Pékin. Et en fait, les Chinois importaient et du Venezuela et de l'Iran à travers, tu sais, les navires fantômes donc qui font les cargaisons en haute mer pour se rendre invisibles techniquement aux Américains et donc contourner les sanctions américaines. Donc, les Chinois qui avaient acheté tout ce pétrole à bas coût, puisque ni le Venezuela ni la Russie avaient beaucoup de clients, donc ils étaient obligés de brader un petit peu leur pétrole.
Et donc là,
c'est fini.
Là, ça veut dire qu'ils vont encore se tourner, on en revient, vers la Russie ?
Exactement, ils vont encore
Seule
se tourner
solution,
vers
quoi.
La Russie. Seule solution, là encore, ils achetaient du pétrole russe à des prix bradés, hein,
oui,
bah, encore une fois.
Ils profitaient de la faiblesse, entre guillemets, la position de faiblesse de Vladimir Poutine pour
Exactement.
Négocier...
C'était la même chose pour la Russie parce que Moscou n'avait plus beaucoup de clients pour son pétrole, donc ils étaient obligés de les vendre un peu moins cher. Bah là, les choses ont changé, hein. Donc peut-être que Vladimir Poutine va prendre un petit peu sa revanche sur son allié Xi Jinping en remontant un petit peu les prix du pétrole. Et donc ça nous permet aussi d'analyser ce partenariat entre la Russie et la Chine. Tu sais, eux, ils ont cette amitié sans limite, hein. C'est comme ça qu'ils définissent leur partenariat. Mais c'est vrai que la Chine, ces dernières années, a pris le dessus. C'est elle qui était un peu le guide de ce partenariat. C'est elle qui avait un rôle de leadership. Bah là, je ne te dis pas que le rapport s'inverse. On n'y est pas encore là.
Ouais.
Mais ça permet un petit peu de réorganiser les cartes. Et on va voir au final qui arrive à tirer son épingle du jeu.
Et en fait, tout arrange Vladimir Poutine à la fin. Quoi. À la fin, c'est Vladimir Poutine qui gagne.
Oui, en tout cas, dans l'immédiat. C'est vrai qu'il perd un allié. Mais de toute façon, les Iraniens n'étaient pas d'une grande aide au régime russe.
Ouais.
Donc pour l'instant... Vladimir Poutine, tu vas voir, il va essayer de tirer parti économiquement de tout ce qui se passe en Iran.
On ne décide pas de lancer une guerre à la légère, hein, ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça sur un coup de tête. C'est forcément un énorme pari pour Donald Trump qui a finalement décidé après des semaines d'hésitation d'envoyer son armada, etc. Peut-être je vais y aller, peut-être je ne vais pas y aller.
Oui.
Il a décidé d'y aller avec l'appui d'Israël. Est-ce qu'il joue finalement son mandat aussi quelque part sur ces prochains jours, prochaines semaines ?
Écoute, pour moi, oui, absolument. Il joue son mandat là-dedans. Pourquoi il l'a fait maintenant, à mon avis, c'est qu'il y a une échéance très claire que nous, on a peut-être un peu moins en tête, mais qu'aux États-Unis est très, très claire. Ce sont les élections de mi-terme qui arrivent au mois de novembre.
Qu'on vous rappelle régulièrement dans l'ordre du monde. Hein. Pour nous,
bien
c'est...
Sûr.
Alors, effectivement, nous, aux États-Unis, tu le dis, on est un peu loin de la politique politicienne américaine. C'est dans plus de 8 mois maintenant. Nous, on le sait. On sait que c'est un moment hyper stratégique. C'est encore plus important que des législatives, les mid-terms. C'est vraiment, ça peut redéfinir tout le mandat de Donald Trump derrière.
Oui, et historiquement, elles sont défavorables au pouvoir en place. Donc, t'imagines un Donald Trump désavoué par les urnes. Évidemment, ça rendrait toute sa politique un peu plus compliquée. Puis, c'est vrai qu'en ce moment, il est plutôt en difficulté, Donald Trump. Il s'est fait retoquer ses droits de douane par la Cour suprême. Les opérations de ICE, la police des frontières au Minnesota, ont été... un échec, à tel point qu'il a annoncé, le retrait. Il avait promis, tu te rappelles, qu'il réglerait très très vite le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Bon, il n'y arrive toujours pas. Donc, tu vois, il est dans une situation au niveau de la politique intérieure un peu compliquée. Donc, il lui faut une victoire claire, un résultat très concret à montrer à ses électeurs pour leur dire « Regardez, là, au moins, moi j'ai réussi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. »
Sur le papier, c'était plutôt une bonne idée, on peut dire, enfin, une guerre n'est jamais une bonne idée, mais on peut dire stratégiquement, si on se met à la place de Donald Trump, l'Iran, c'est un ennemi séculaire des États-Unis, depuis l'arrivée du régime des Mollahs, ils font partie de cet axe du mal qui avait été décrit par George Bush. Les frapper, c'était plutôt quelque chose d'évident. Il a réussi à faire tomber la tête du régime. L'ayatollah Khamenei est mort. Le régime est un petit peu désorganisé. Est-ce que c'est une victoire pour l'instant pour Donald Trump ? Le conflit n'est pas fini, loin de là. Est-ce que sur cette première semaine, on peut dire que c'est lui qui a réussi son coup ?
Écoute, oui, pour l'instant, oui, parce que logistiquement, l'opération a été presque parfaite. Effectivement, il y a des ripostes iraniennes, il y a quelques victimes du côté américain, mais ce sont pour l'instant...
4, je crois, soldats qui sont décédés.
Et ce sont pour l'instant des victimes militaire. Donc, quelque part, l'opération n'est pas aussi parfaite que celle au Venezuela, mais c'était peut-être aussi mis dans le compte que Donald Trump avait fait. Donc, et oui, tu as raison de le souligner, c'est vrai que la tête du régime a été éliminée, donc il a atteint son but logistique. Mais l'incertitude, c'est plutôt pour la suite, parce que l'Iran n'est pas le Venezuela, c'est un régime beaucoup plus organisé. L'Iran est une puissance immense, évidemment, beaucoup plus organisée, avec une capacité balistique très développée. On le voit, évidemment, ces derniers jours. Et puis, parce que le régime n'est pas tombé encore. Ali Khamenei est décédé, mais tu vois que la succession s'organise très vite.
On a déjà des noms qui circulent pour être le prochain guide suprême.
Exactement. Et puis, tu sais, Ali Khamenei se savait ciblé par les Israéliens, par les Américains. Et en plus, il était très âgé et il était malade. Donc, la succession était quelque part possible, même juste naturellement. Il n'avait pas 45 ans et toute sa santé. Donc, il y a une succession qui s'organise, évidemment,
Et je disais d'ailleurs à ce propos dans un papier, je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou je ne sais plus dans quel journal français, d'analyse qui disait que justement, c'était presque une victoire pour Téhéran, ça, que le guide suprême soit décédé dans un bombardement. Ça fait de lui un martyr qui part, tué par l'ennemi suprême américain qui vient couper la tête du régime. Lui, il part avec son aura de guide mystique presque, ce qui va peut-être renforcer les convictions finalement du régime des Mollahs, de se dire on est dans le juste, nous sommes ciblés, il faut qu'on riposte quoi. Mais il faut même peut-être qu'on durcisse le ton.
Exactement.
C'est ça ce qui va arriver peut-être, non ?
C'est tout à fait le risque, en effet, de se dire, ce régime est évidemment un régime meurtrier. On a vu 40 000 victimes civiles ces dernières semaines dans des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Mais c'est notre régime. Il y a effectivement ce côté de radicalisation, surtout au sein de la hiérarchie religieuse, de la hiérarchie militaire iranienne, de se dire effectivement cette frappe américaine était totalement contre le droit international, bien sûr, mais surtout elle vient empiéter sur notre
souveraineté iranienne.
Exactement. Et donc, effectivement, on risque d'avoir un régime qui se radicalise encore plus. C'est ça, le risque pour Donald Trump. Et en fait, ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est s'il a un exit plan, non ? Comment on dit ? C'est s'il a prévu une porte de sortie.
Oui, c'est ça. C'est une chose de lancer une guerre. Maintenant, il faut la finir. Est-ce qu'il a le moyen ? Lui, il a parlé, je crois, de 4-5 semaines environ pour la durée du conflit. Donc, on en a déjà une. Potentiellement, il resterait donc entre 3 et 4 si on se fie à son plan. Est-ce que c'est un plan ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il le vend comme ça. Si ça va plus loin, est-ce qu'il peut aller plus loin ?
Il peut aller plus loin, effectivement.
Parce qu'on se rappelle que Vladimir Poutine, quand il envahit l'Ukraine, c'est un peu pareil.
Ah oui.
Il nous dit que ça va durer quelques semaines, quelques mois, grand maximum. 4 ans plus tard, on est toujours là. La Russie est embourbée en Ukraine. Est-ce que les États-Unis ne vont pas s'embourber en Iran ?
C'est possible. C'est absolument possible. Pour l'instant, il ne compte pas envoyer des troupes au sol. Et moi, personnellement, là, je te donne mon avis. Je le vois comme une hypothèse. À ce stade, encore loin. Mais jusqu'où ils auront suffisamment de munitions, suffisamment de
force. C'est pour l'instant une guerre de stock, en fait. C'est qui aura le plus de stock pour épuiser les défenses et les contre-attaques américaines et iraniennes à côté.
Et puis, c'est une guerre d'opinion publique aussi, puisque l'opinion publique américaine n'est pas toujours pour la guerre. Au contraire, elle est souvent contre la guerre, c'est plutôt naturel. Donc, tous les sondages qui sont sortis ces derniers jours nous disent qu'en fait, la plupart des Américains sont contre cette guerre. Il y a seulement un Américain sur quatre qui approuve cette intervention.
On sent encore le traumatisme des interventions justement dans cette zone-là, en Afghanistan, en Irak.
Exactement, et c'est la leçon de ses prédécesseurs que Donald Trump devrait avoir appris, ou pas, on le saura, le temps nous le dira, c'est que le Moyen-Orient est toujours un terrain très compliqué, et que en fait, chaque victime américaine pèse très très lourd dans la balance, et c'est peut-être trop lourd pour un président qui, il y a encore quelques mois, demandait un prix Nobel de la paix. Il se présentait, tu te rappelles, comme le président de la paix, celui qui n'allait pas engager de guerre. Exactement. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire clairement sans trop de peur de se tromper, Donald Trump est un président interventionniste.
Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, le Congrès, dans son ensemble, ne lui met pas de bâton dans les roues. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, il y a un projet de loi qui a essayé d'être passé, qui n'est pas passé finalement, même s'il y a déjà des républicains qui commencent à dire « ça n'est pas une bonne idée ». Ce n'est pas ce dont les États-Unis ont besoin en ce moment. Donc, est-ce que ça va durer comme ça ? Est-ce que le Congrès ne va pas finalement à un moment dire « bon, maintenant, ça suffit ». Si le nombre de victimes peut-être augmente aussi, ça peut être ça qui joue. On sait que dans l'opinion publique, c'est ça qui peut, du jour au lendemain, faire basculer la guerre vers le côté encore plus impopulaire. Est-ce que Donald Trump arrivera à passer au-delà de ça ? On verra bien. Intéressons peut-être à l'Iran aussi, de l'autre côté de ce conflit, puisqu'il y a les États-Unis et Israël d'un côté. En face, il y a l'Iran et personne d'autre, en fait. L'Iran est un peu seul, non ?
Tout à fait. Beaucoup plus qu'un peu seul, totalement isolé même, on peut dire. Tu sais, quand on parle des alliés de Téhéran, effectivement, on cite la Russie, on cite la Chine, on en a déjà parlé. On voit que les deux pays n'ont pas vraiment l'intention d'aller aider leur ami iranien. Non, effectivement. Et puis, ça deviendrait un conflit mondial et personne n'y a intérêt. Et puis, d'ailleurs, la Russie, même si elle le voulait, on le disait au tout début, elle est trop embourbée en Ukraine en ce moment. Et parmi les alliés de l'Iran, il y a toutes ces organisations non étatiques des rebelles. Par exemple, le Hezbollah au Liban, les rebelles houthis au Yémen. Il y a plusieurs milices en Irak qui ont d'ailleurs déjà frappé. Toutes ces organisations ont déjà frappé en signe de soutien à l'Iran. Mais en fait, ces organisations-là, ça va plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt l'Iran qui les aide, qui les finance, qui les arme, plutôt que l'inverse. C'est pour ça qu'on les appelle des proxys, d'ailleurs, parce que ce sont des émanations régionales de l'Iran.
Et donc, qui servaient plutôt à étendre l'influence iranienne dans la région du Moyen-Orient, plutôt que l'inverse, en fait.
Voilà, exactement. Donc, qui peuvent aider l'Iran avec des actions de guérilla, on l'a vu, des missiles, frapper quelques bases, essayer de frapper quelques sites stratégiques. Mais voilà, l'aide ne va pas au-delà. Il n'y a pas de grande puissance sur la scène internationale qui puisse vraiment aider l'Iran, qui prenne cette responsabilité-là. Donc l'Iran est très isolé. Et tu parlais il y a un instant de la narration du régime, non, qui s'isole, qui se durcit encore plus. Bah, ça renforce aussi cette narration d'un Iran, d'un régime des mollahs, seul contre le reste du monde. Donc le seul bon régime, le seul qui suit vraiment les indications de la charia, et donc qui doit lutter seul contre un monde trop occidentalisé qui ne l'aide pas.
C'est un narratif assez classique dans les pays très autoritaires, voire dans les dictatures. On le sait qu'en général, il y a toujours cette phase de repli sur elle-même. C'est voilà, personne ne comprend ce que je fais, tout le monde me critique, tout le monde me dénonce la façon dont je gère mon pays. Ça peut amener malheureusement souvent à des drames. Soit ça va se durcir en interne et c'est probablement la population qui va aussi en subir les conséquences, soit ça peut créer une guerre toujours plus longue, toujours plus complexe pour tous les gens qui seront impliqués dedans, et notamment toute cette région très instable.
C'est une résistance à tout prix, en fait. C'est aller jusqu'au bout, jusqu'au dernier survivant, vraiment une résistance à tout prix, et un pays qui n'est pas du tout prêt à la négociation, un régime qui n'est pas du tout prêt à négocier.
On va surveiller ça, mais on va aussi surveiller, Annalisa, pour finir, un pays auquel on ne pense pas du tout quand on pense à un conflit au Moyen-Orient, parce que ce pays n'est pas au Moyen-Orient, et pourtant il se retrouve impliqué dans cette guerre de façon un peu imprévisible. Tu voulais nous parler de Chypre, je crois.
Oui, effectivement, c'est Chypre. Pourquoi je t'en parle ? Parce que Chypre a été frappée en début de semaine, elle a été frappée par un drone iranien. Qui a frappé une base britannique sur le sol chypriote. Il y a plusieurs autres drones qui ont essayé de frapper Chypre depuis. Pas réussi pour l'instant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la nouvelle que la Turquie avait intercepté un missile qui se dirigeait vers son territoire. En fait, on a su depuis que le missile visait en réalité Chypre. Donc on sait que ces attaques-là se poursuivent pour viser Chypre et la base militaire britannique sur son sol.
C'est pas anodin quand même. Alors certes, c'est le Royaume-Uni qui n'est pas dans l'Union européenne, mais c'est une attaque sur le sol européen et sur le sol de l'Union européenne.
Ce n'est pas du tout anodin. C'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller ce qui va se passer à Chypre ces prochains jours. D'ailleurs, tous les Européens se sont mobilisés. La France va envoyer des systèmes antimissiles, des systèmes anti-drones à Chypre. La Grèce a déjà envoyé des moyens techniques et militaires. Donc, tu vois vraiment, toute l'Europe suit, évidemment, on suit le conflit dans l'intégralité puisque ça nous concerne. Et puis, pour des questions
Et que ça n'est pas si loin, humaines, si loin de nous.
Exactement. Mais ce qu'on surveille surtout en Europe aujourd'hui, c'est Chypre, parce que ça serait une attaque directement sur notre sol. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Est-ce qu'on est obligé de s'engager un peu plus ? Comment ? On sait que Emmanuel Macron a pris une ligne plutôt interventionniste ces derniers jours dans son discours de l'autre soir, mardi soir.
On va envoyer le Charles de Gaulle.
On va envoyer le Charles de Gaulle en Méditerranée.
Route, là, qui devrait arriver d'ici la fin de la semaine prochaine, je crois, dit Catherine Vautrin. Donc, il va arriver dans cette zone probablement autour de Chypre. Il ne devra pas aller du côté du conflit plutôt au côté européen pour peut-être justement protéger de ces éventuelles attaques de drones ou tirs de missiles un peu éparpillés dans tous les sens qui pourraient faire des dégâts sur le sol européen.
Et ça va nous donner quelques réponses aussi sur la défense européenne. Est-ce qu'on arrive à s'organiser ? Est-ce qu'on arrive à avoir une action commune ? Ou est-ce que, comme d'habitude, chacun agit de son côté ? C'est un peu ce qui se profile pour l'instant. L'Espagne ne veut pas s'y mêler.
On voit qu'il y a la doctrine espagnole qui est vraiment en train de faire bouger les lignes en Europe. C'est Pedro Sanchez a l'air assez clair. Il n'y aura rien, aucune implication espagnole dans ce conflit.
Oui.
Est-ce que l'Europe va le suivre ? Est-ce que l'Europe va un peu lui forcer la main ? Est-ce qu'on ira sans l'Espagne ? Et tant pis, au risque de fissurer justement cette défense européenne.
Voilà, parce que sinon, on risque de se fâcher avec Donald Trump aussi. Donc, où est-ce qu'on met la fracture entre nous, les Européens ? Est-ce qu'on la met entre nous et les Américains ? Donc voilà, tout ça est très complexe et je pense qu'une partie de cette réponse se joue aussi à Chypre. Donc, cette petite île au milieu de la Méditerranée qu'il va vraiment falloir surveiller ces prochains jours.
Enjeu passionnant qu'on n'avait pas vu venir forcément de se dire que l'Union européenne serait impliquée si vite. Dans ce conflit, et finalement, dès le premier jour, quasiment, on s'est retrouvé impliqués. Merci, Annalisa.
Merci, Clément.
J'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Toutes ces questions, si on se les pose, c'est probablement parce que vous les posez aussi. Donc, n'hésitez pas à nous en poser d'autres, si vous en avez. Ce conflit, on le disait, il va a priori durer encore un peu. Il y a de fortes chances qu'on en reparle dans l'ordre du monde dans les prochaines semaines. Je ne serai plus là. Je vais rendre sa place à Mathieu Jolivet quand même, sa place qui lui est due, il est bien meilleur que moi par ailleurs, donc je serai de retour en coulisses pour les prochains épisodes, mais toi tu seras encore là pour nous répondre.
Oui, moi je serai là, toi tu seras de l'autre côté de la caméra, on sera pas bien loin, mais vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous donner vos petits commentaires, à nous poser vos questions si vous en avez en commentaire, et nous on se dit à la semaine prochaine.
Voilà, sans moi mais avec Mathieu Jolivet.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.